Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
ABS à votre santé, ravi de vous retrouver avec Karima Chadibaou. Nous parlons d'éducation souvent le jeudi. Bonjour
oui,
Karima.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Voilà, d'éducation positive. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux grands-parents.
Oui, absolument.
Sujet passionnant avec Béatrice Copper-Royer qui est avec nous au téléphone.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes psychologue et psychothérapeute.
Exactement.
Alors, attendez, parce qu'on a un petit écho. Voilà. Bon, vous m'entendez,
oui,
Béatrice?
Moi, je vous entends très bien.
Parfait, vous publiez Grands-parents, le maillon fort aux éditions Albin Michel.
Exactement, avec Marie Guyot.
Bien, est-ce qu'on est grands-parents comme on a été parents?
Non, pas toujours. Hein. Et même souvent, on peut avoir été, par exemple, des parents peu disponibles ou par exemple, autoritaires. Et puis, avec ses petits-enfants, avec l'évolution du temps, le recul qu'il y a, pas les soucis d'éducation, eh bien, on devient des grands-parents plus tendres et plus présents. Mais enfin, on voit, ce qui est intéressant avec les grands-parents aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu tous les phénomènes, toutes les personnalités et tous les comportements.
Mais il n'y a pas un sentiment d'injustice pour les enfants quand ils voient leurs parents qui les ont élevés à la dure subitement être super cool avec les petits-enfants, géniaux.
Souvent ça les réjouit, parfois certains qui n'ont pas bien réglé leur compte peuvent avoir du ressentiment, mais souvent ça les réjouit parce que ça rétablit d'une certaine façon un lien moins conflictuel entre les générations et c'est souvent un apaisement. Donc moi je dirais que plutôt ça va dans le sens de les réjouir. Parfois il y a des exceptions et il y en a qui peuvent être dans la rivalité ou dans la rancœur.
Alors, Karima,
oui.
Pourquoi est-ce qu'on n'est pas, grands-parents comme on était parents?
Déjà, il y a la question de génération, la question d'âge aussi, et la question aussi d'expérience. Et on a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus aussi de recul par rapport à ses propres enfants. Et en fait, c'est aussi une période de réconciliation, parce que c'est une autre chance en fait qui est offerte aux parents, donc ils sont devenus grands-parents, une autre chance et une autre manière d'être parent. Et surtout quand on est grands-parents, c'est le lien affectif en fait. Ce lien qui va se créer en dehors de tout ce qui est la peur de l'échec, parce que la plupart du temps les parents sont portés par cette peur d'échouer avec leur enfant, la peur de mal faire, la peur de passer à côté de l'enfance de leur enfant. Donc du coup les grands-parents n'ont pas ce souci-là. Les grands-parents c'est plus, d'ailleurs on le voit, c'est du temps de joie, du temps de partage, du temps de convivialité et donc du coup il y a nettement moins de pression.
C'est plus facile d'être grand-parent, finalement.
C'est plus facile d'être grand-parent que d'être parent.
Ça fait clair.
Oui, ça c'est clair, parce que quand on est parent, on a, comme je l'ai dit, on a la pression, en fait, de la réussite de nos enfants, la pression de l'éducation, de vraiment éduquer. Les grands-parents, ce sont des alliés dans l'éducation des enfants. Des alliés, c'est aussi un refuge. Généralement, moi, quand j'accompagne des adolescents qui sont en difficulté, je demande souvent aux parents, s'il y a les grands-parents, s'ils participent, et la famille au sens élargi, les oncles aussi, les tantes. Et du coup, quand les parents n'arrivent plus à communiquer avec leur ado, généralement, on peut passer le relais aux grands-parents. Et ça se passe généralement beaucoup mieux.
Alors, Béatrice Copper-Royer.
Je suis d'accord avec vous.
Oui,
ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que ça peut être un très très bon relais, surtout à l'adolescence où les adolescents sont dans une communication compliquée avec leurs parents. Je trouve que les grands-parents, ou effectivement la famille élargie, mais très souvent les grands-parents, sont un recours très utile.
Vous écrivez que les grands-parents sont des passeurs de valeurs, mais de quelles valeurs parle-t-on?
De toutes sortes de valeurs, c'est-à-dire de, par exemple, les valeurs qui sont attachées à leur famille, à leur lignée. Ça peut être, une culture des livres ou de la cuisine ou du bricolage. Ça peut être, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se transmettre.
Karima.
Oui, il y a aussi.
Parce que c'est fondamental, hein, cette question de passeurs de valeurs.
De passeurs de valeurs, et puis le passage, en fait, et la transmission de ces valeurs, elle ne se fait pas dans l'angoisse ou dans le stress, comme le font les parents. C'est une généralisation que je fais là. Mais avec les parents, c'est quelque chose qui se fait d'une manière organique, c'est-à-dire d'une manière naturelle. Par exemple, on peut voir des enfants qui vont développer leur créativité avec une grand-mère qui va leur apprendre à coudre, qui va leur apprendre à tricoter, par exemple. Et à travers ça, on fait passer, à travers ces activités-là, par exemple, on fait passer, en fait, les valeurs de solidarité, les valeurs de partage, les valeurs de soutien, des valeurs de... Et ça se fait d'une manière naturelle, ne serait-ce que, par exemple, quand les grands-parents racontent... Moi, j'ai vécu une scène, là, il y a deux jours, avec mon père... Mon père, je rends hommage à mon papa qui a 85 ans, et il nous parlait, en fait, il y a eu un moment, un instant d'éternité comme ça, où il a commencé à parler de son grand-père, de sa grand-mère, et donc mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, des choses que je ne savais pas et que je découvrais. Et c'était un instant magique, quelque chose de, tiens, il y a quelque chose de l'ordre, de la transmission de certaines valeurs, où je me posais la question d'où elle me...
De la transmission familiale,
absolument. Absolument.
C'est ça qui est important avec les grands-parents, c'est qu'ils sont les témoins de l'enfance de leurs enfants. Ils sont aussi, ils peuvent parler de leurs propres parents, et ils sont souvent ceux à qui les petits enfants, ceux que les petits enfants interrogent pour savoir un petit peu quel est le contexte familial, qu'est-ce qui s'est passé. Et les enfants ont besoin de savoir d'où ils viennent.
Oui. Absolument, parce qu'ils ont besoin pour se construire et de connaître d'où on vient et nos racines, notamment au niveau de cette histoire familiale, pour
c'est,
être...
C'est pas les parents donc qui transmettent les racines.
Alors, si.
Ils les transmettent, bien sûr, évidemment qu'ils les transmettent, mais c'est souvent plus facile pour les enfants de poser des questions à leurs grands-parents, parce qu'il y a une question de disponibilité aussi.
Oui.
C'est ça qui change les donnes. C'est que les grands-parents ont une disponibilité qui est plus grande quand ils voient leurs petits-enfants que les parents qui sont dans le quotidien.
Alors, une disponibilité de temps et une disponibilité aussi au niveau, psychique aussi. C'est-à-dire, on n'est pas angoissé ou stressé par le temps, ou surtout que l'enfant, quand il veut savoir d'où il vient, et ça, d'où c'est venu, ça appartient à qui, ce trait de caractère, cette manière de faire, cette manière de vivre les choses, cette manière de reproduire certaines choses. Et le grand-parent, il a beaucoup plus de... Mais vraiment une disponibilité, au niveau même une disponibilité spirituelle. Quand je dis spirituelle, c'est-à-dire, on va mettre tout au niveau de l'ambiance, au niveau du temps, de la prédisposition et disposition à cet enfant pour vraiment écouter toutes ces questions. Mmh. Et rien n'est tabou, j'ai envie de dire. Tandis que le parent, parfois, comme il a peut-être quelque chose à régler encore et que c'est pas encore très clair, pour le grand-parent, lui, c'est beaucoup plus facile. Et il y a une espèce de d'acceptation, en fait, qui est un peu naturelle. En tout cas, de ce que j'ai pu remarquer, je pense que Béatrice, vous êtes d'accord avec moi ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. On a l'impression que la parole est plus libérée quand il y a un écart de génération et que donc les grands-parents ont cette possibilité comme ça de raconter l'histoire familiale.
Avant, il n'y a pas très longtemps encore, il y avait les albums photos. Vous savez que souvent quand on allait chez papy et mamie,
on sort les albums.
On sortait les albums photos. Aujourd'hui, ça se perd quand même beaucoup. Il y a beaucoup qui se transmettaient dans cette histoire d'albums photos là, qui était même pénible parfois tellement il y avait de photos.
Oui.
mais c'était très intéressant parce que ça situait les personnages dans un cadre, dans un décor, ne serait-ce pas les voitures
en noir et blanc souvent.
La 403 de l'époque la vieille Peugeot, les tenues à la campagne. C'est effectivement ça marque complètement une époque et un environnement, et les enfants adorent ça, et puis ils adorent aussi retrouver les photos de leurs enfants, de leurs parents petits. Ça les amuse beaucoup. Il y a le jeu aussi des ressemblances qui est très fort, et à qui je ressemble, à qui on ressemble, tout ça renvoie là encore aux origines. Et c'est précieux.
c'est très précieux, ça contribue vraiment à la construction de la personnalité, de l'identité, de dire voilà d'où je viens et je suis moi aussi, à la manière de votre titre, Béatrice, du livre, le maillon fort, je suis moi aussi le maillon de cette histoire et je vais aussi perpétuer, je vais donner des choses, je vais apporter des choses, je vais contribuer à cette histoire familiale. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, de savoir qu'on contribue, et c'est un des premiers besoins de l'être humain, savoir que je peux contribuer à quelque chose et que je laisse ma trace, moi aussi, à travers cette histoire de mes parents, de mes grands-parents et grands-parents, et moi aussi, je vais contribuer, je serai à un moment donné aussi dans l'album familial. Et ça, c'est quelque chose qui rassure et qui stabilise aussi
C'est vrai que c'est dommage parce que ça va peut-être se perdre avec l'ère du numérique. Oui. On a des centaines et des centaines. On s'est jamais pris autant en photo.
Il y a énormément de photos. Aujourd'hui, on prend beaucoup de photos. Avant, on en prenait moins.
Énormément. C'est d'une.
Et on n'en prenait qu'à quelques grandes occasions, d'ailleurs.
Oui. Exactement. Les cérémonies étaient marquées par le photographe. Et maintenant, c'est à tout bout de champ. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut faire un effort pour les imprimer, pour les faire tirer. Et c'est bien d'avoir en tête que, quand on a un peu de temps, essayer de faire des albums pour que ça perdure.
Absolument. Oui, je suis d'accord.
Alors, les grands-parents sont en concurrence, hein, parce que finalement, ils sont en concurrence par les autres grands-parents.
Oui.
Parce que on n'a pas qu'un couple de grands-parents.
Non.
On en a deux. Il y a deux couples de grands-parents qui souvent. D'abord, ils sont souvent pas situés géographiquement de la même façon. Ils n'ont pas le même âge parfois. Donc
ils s'appellent pas papi et mamie ils s'appellent pas tous de la même façon.
Non. Exactement. Donc on cherche des noms différents pour chacun. Et puis ça va dépendre parce que si vous voulez, le lien aux grands-parents il est quand même très introduit auprès des enfants par leurs propres parents. C'est-à-dire que c'est l'intimité des parents à leurs propres parents qui va définir quand même le lien qui va se créer. Et il y a des couples qui sont plus proches. Il y a des femmes qui sont plus proches de leurs propres parents. Parfois c'est l'inverse du reste. Mais c'est vrai que la qualité du lien va définir et va imprimer, si vous voulez, la qualité des rapports ou l'intimité des petits-enfants à leurs grands-parents.
Et d'ailleurs, pour les petits-enfants, c'est la même chose. Ils sont en concurrence avec beaucoup plus de... Il peut y avoir 10, 15 cousins, hein.
Oui.
Ouais.
Parfois,
ils adorent ça. En général, quand même, ils adorent ça. Et moi, les enfants qui me parlent de leurs grands-parents associent très, très souvent la joie de les retrouver avec la joie aussi de retrouver des cousins. Et d'appartenir comme ça pendant un temps, pendant une semaine, pendant 10 jours de vacances, à une espèce de grande tribu.
Absolument. Une grande tribu. Et puis, ce que j'ai pu remarquer, c'est que chacun, en fait, on parle de concurrence entre les différents grands-parents.
Les liens ne sont pas les mêmes.
Les liens ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est formidable, et moi, c'est ce que je trouve ça mais vraiment magique, c'est que chacun arrive à trouver sa place, malgré la cacophonie. Moi, je vois quand toute ma famille se réunit chez mes parents, moi et mes enfants, mon mari, mes sœurs avec leur mari et leurs enfants, ça crée... Mais chacun trouve sa place. Et en plus, ce qu'on peut trouver aussi, c'est que autant les grands-parents, on va leur donner un surnom, par exemple, dans la culture arabo-musulmane, la grand-mère, c'est Jiddati, le grand-père, c'est Jiddi, alors ça va être Mouima, on va donner des petits noms comme ça,
chacun
des petits surnoms.
Chacun
a son petit nom, mais ça c'est dans le sens le petits-enfants grands-parents, mais c'est aussi dans le sens grands-parents petits-enfants. Et chacun, il y a pas, on ne trouve pas cette espèce de jalousie qu'on peut retrouver
entre
les frères et sœurs, une espèce de rivalité et jalousie. Là, en tout cas de ce que j'ai pu observer, c'est beaucoup plus apaisé,
Parfois, ça se complique quand même un peu. Il faut pas dire que tout est totalement idyllique.
Oui,
top.
Bien sûr.
Et il peut y avoir effectivement des grands-parents qui s'attristent. De penser que les autres grands-parents voient plus les petits-enfants, ont un lien d'intimité plus grand, etc. Et c'est souvent assez douloureux parce qu'ils ont un sentiment d'injustice qui est assez fort.
Oui. Oui, et surtout s'il y a un isolement en fait, hein, et par exemple si je vais reprendre une caricature là, mais bon je l'assume, c'est pas grave. Si on s'entend pas la femme s'entend pas avec sa belle-mère. Alors moi je reçois beaucoup de couples hein, comme ça et je dis mais écoutez,
c'est un classique,
mais je dis n'oubliez pas hein, votre enfant il vient de là aussi, hein, c'est la grand-mère de votre enfant. Si vous n'avez pas envie d'avoir de relation avec elle ou c'est plutôt conflictuel ou vous êtes mal à l'aise, votre enfant a peut-être besoin de sa grand-mère, et pas peut-être, mais certainement besoin de sa grand-mère. Donc voyez plutôt en cette personne la grand-mère, qui est aussi un relais, qui va lui donner de son amour, de sa sollicitude, de son empathie, et qui va nourrir ses besoins. Ne la voyez pas comme étant une rivale. Parce que de toute façon, on ne peut pas remplacer la maman, hein, de toute façon. Hein. Et donc, du coup, ça
d'ailleurs, il faut que les choses soient très claires. Hein. Je pense que les relations sont paisibles et merveilleuses quand chacun connaît et reconnaît
oui.
sa place.
Absolument. Absolument, parce que les grands-parents, c'est pas eux, c'est pas les éducateurs. Les éducateurs premiers, ce sont les parents, et on peut leur demander de l'aide, comme on l'a dit au départ, leur demander quand dans une situation où il n'y a plus de communication ou de conflit, de désamorcer, parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de recul, beaucoup moins d'implication aussi émotionnelle. Donc du coup, ce sera beaucoup beaucoup plus facile.
On parle des grands-parents jusqu'à 13h. Grands-parents, le maillon fort, comme vous les appelez, Béatrice Copé-Royer. Vous êtes notre invitée jusqu'à 13h. Si vous voulez rejoindre la conversation, nous expliquer le lien, la nature du lien qui vous unit à vos grands-parents, qu'ils soient vivants ou que vous les ayez perdus, mais il y a même ceux qui ont leurs arrière-grands-parents. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et avec Karim Achadi Baïou, nous avons invité aujourd'hui Béatrice Copé-Royer qui publie Grands-parents, le maillon fort, que vous avez coécrit avec Marie Guyot. On dit toujours que les grands-parents, c'est plus les mêmes qu'avant, ils ont changé. Avant, c'était clair, il y avait la mamie, c'était la mamie, elle ressemblait à une mamie, elle faisait des gâteaux et tout dans sa cuisine. Hein. Maintenant, c'est fini. La mamie, elle a 40 ans, elle a un iPhone 10.
Elle est sportive.
Voilà, elle a quand même pas 40 ans, elle a quand même un petit peu plus. Hein. Elle a quand même autour de 55-60 ans, c'est à peu près l'âge moyen du premier petit enfant.
Ah bon? D'accord, moi je la voyais plus jeune.
Elle a 40 ans, non, quand même. Mais c'est vrai.
Enfin, elle a l'air d'avoir 40 ans en fait, c'est ça.
Elle est jeune dans sa tête.
Oui, mais il ne faut surtout pas qu'elle pense qu'elle a 40 ans.
moi j'en connais qui n'ont pas 40 ans, mais qui ont 40, 42, 43 ans. Hein. Pas très loin.
Oui, puis on en a aussi qui veulent pas être appelées grand-mère et qui veulent pas quand elles sont avec leur fille et leur petite fille, elles veulent pas dire
babou, tout ce
voilà,
que tu veux, mais
pas
c'est
qu'on
pas,
dise
c'est
je suis pas
mamie,
ta grand-mère,
hein.
Tu dis pas mamie, tu m'appelles pas comme ça, je suis une copine de ta maman si tu veux, mais
oui, mais en général ça pose un peu de problème. J'ai un exemple comme ça, un témoignage intéressant dans le livre où il y avait une femme qui a eu ses petits enfants, je dirais en deux temps, les deux premiers, elle les a eu très très jeunes. Elle avait 42 ans, et à ce moment-là, elle n'était pas du tout justement dans un état d'esprit de grand-mère. Elle était elle-même dans une vie amoureuse, où elle se demandait si elle allait avoir un dernier enfant, etc. Et donc, elle me disait que ses petits-enfants, c'était un peu le prolongement de ses propres enfants. Elle les avait jamais vraiment considérés comme ses petits-enfants. Que d'ailleurs, de temps en temps, il se trompait, il l'appelait maman.
Oui.
Et ensuite, elle en a eu un autre, beaucoup plus tard, à la soixantaine, d'un autre enfant, de sa dernière fille. Et là, elle me disait qu'elle s'était sentie pleinement grand-mère, que c'était pour elle le bon tempo.
Voilà.
Ah oui, donc ce qui veut dire qu'il faut avoir un âge. Parce qu'avant, vous voyez, par exemple, les grands-parents, ils étaient forcément à la retraite.
Oui.
Vous voyez, tout allait ensemble. Ils étaient disponibles, ils étaient à la retraite. C'est-à-dire que les grands-parents gâteaux tels qu'on les a imaginés, ça tend à disparaître.
Il y en a encore. Il y a un peu de tout. C'est ça que je trouve assez passionnant dans cette évolution. C'est qu'il y a des grands-parents qui sont encore actifs, qui travaillent. Il y a des grands-parents
qui ne travaillent plus mais qui sont actifs parce qu'ils ont tout à fait l'intention de profiter de leur retraite pour avoir plein d'activités, ils sont très en forme et comme vous le disiez, ils n'ont peut-être pas 40 ans mais ils ont une très bonne santé, ils sont capables de faire plein de choses, donc ils n'ont pas non plus envie d'être des grands-parents à plein temps. Et puis il y a des grands-parents un peu plus âgés peut-être, ou en tous les cas qui ont décidé avec bonheur d'investir vraiment pleinement leur rôle de grands-parents, peut-être de façon plus traditionnelle. Mm-hmm. Donc vous voyez, on voit un peu de tout.
Il y a une grande diversité de profils, c'est ça que ça veut dire en fait.
Oui.
Voilà, il y a une grande diversité de profils. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont divorcés, il y en a qui sont seuls, il y en a qui ont refait leur vie, il y a des beaux grands-parents. Donc il y a une multitude de profils.
Alors on accueille Sarah qui nous appelle de Normandie. Sarah au 01 53 48 3000. Bienvenue Sarah.
Bonjour, oui voilà, je me permets de vous appeler parce que c'est vrai que j'ai eu des petits soucis avec mon fils.
Oui.
Mon fils arrive, il a 15 ans, suite à un divorce.
D'accord.
Et puis, mon papa est décédé, ça va faire 12 ans. Donc, papa n'a pas pu prendre le relais. Maman... la maladie l'a atteinte aussi, donc elle n'a pas pu prendre le relais aussi, mais elle l'a fait auparavant, avant sa maladie. Donc elle s'est occupée de Saïf pendant que je travaillais. Et puis, vu les soucis du... Bon, ça va mieux maintenant, mais vu les soucis de l'enfant, de Saïf, il a été placé en maison de cadeau.
D'accord.
D'accord.
D'accord. Pour son bien-être. Donc j'ai toujours du suivi, il y a toujours du suivi. Et je voudrais demander aussi, quand l'enfant refuse de parler à sa maman, est-ce que vis-à-vis, parce que le papa lui monte la tête et il lui dit « Oui, si tu parles à maman, je te parle plus, tu viens plus chez moi », est-ce que l'enfant, j'aimerais savoir si l'enfant reviendra vers moi, mon fils reviendra vers moi.
Votre fils, il est pris manifestement dans un conflit.
Alors, par contre, je vous entends très mal.
Alors, attendez, on va essayer de régler la ligne. Voilà.
Je vous entends très mal, très très mal, de loin et très mal.
Alors, ce que je vous propose, Sarah, c'est d'écouter la réponse à la radio, si vous voulez bien. Comme ça va être beaucoup plus simple. Béatrice et Karima vont vous répondre. Donc, vous voulez savoir si, effectivement, votre enfant va revenir.
Parce que sa tête, elle est montée.
Voilà, parce que son père lui a monté...
Il est en centre, il est très bien. Il a de très bonnes notes scolaires qui avaient baissé quand il était chez son papa.
Ouais.
Donc, j'ai fait appel à un juge parce que j'étais très inquiète. Donc, il y avait des bagarres au collège.
Mais là, Sarah, en fait, votre question, elle est claire. Hein. Vous voulez savoir si effectivement, l'enfant va revenir. Alors, ça, c'est. Béatrice, voilà. vous parliez. Alors, Sarah, je vous propose, écoutez la réponse à la radio, comme ça, ce sera mieux d'un point de vue de son. Et Béatrice, vous nous parliez à l'instant du conflit de loyauté dans lequel est pris cet enfant.
Oui.
Malheureusement, on ne voit pas encore trop souvent. Il y a des enfants qui, dans le cas de séparation très conflictuelle de leurs parents, sont pris dans des conflits de loyauté, c'est-à-dire que chacun des parents disqualifie l'autre et essaie d'attirer l'enfant dans son camp de façon extrêmement pénible. Et bon, c'est vrai que plus les enfants sont jeunes et moins ils ont d'autonomie psychique pour y voir clair. Mm. Et de toutes les façons, ça leur pollue la tête. Alors, j'ai compris qu'il avait 15 ans, ce jeune garçon.
Il a 15 ans et il est en centre.
Hein, oui.
Voilà, il a 15 ans. Ce qui me paraît une très très bonne idée, justement, c'est qu'il soit dans un centre où on le met à l'abri quand même un petit peu de ces conflits, de ces influences très, très toxiques, et où il va pouvoir, avec l'aide probablement d'adultes autour de lui, d'éducateurs, de petits, de se forger un petit peu sa propre personnalité et de prendre du recul par rapport au jugement probablement très sévère qu'il avait sur sa mère. Donc il faut qu'elle fasse confiance aux gens qui sont, aux adultes qui sont dans ce centre et qui vont aider ce garçon qui a 15 ans n'a pas du tout envie d'une proximité avec sa mère, de tous ses enfants. C'est un peu le mouvement de l'adolescent garçon, hein, de s'éloigner de sa mère à ce moment-là.
Mais est-ce que ça veut dire, Béatrice, que l'enfant revient, on va dire, automatiquement, une fois que la période est passée, ou pas?
Bah, c'est pas automatique, mais souvent quand même, moi je l'ai vu très très souvent, hein, c'est-à-dire des adolescents qui avaient des opinions extrêmement tranchées et très virulentes contre un parent, une fois que voilà la crise est passée, que le temps a passé, qu'ils ont grandi, qu'ils ont mûri, en réalité ils reviennent vers le parent qu'ils avaient rejeté avec violence.
Oui, et je vais co-construire avec vous, Béatrice, par rapport donc pour Sarah. Donc l'ado, déjà, vous l'avez dit, hein, il est dans une période compliquée aussi pour lui, une période où il y a beaucoup de changements. Donc c'est la crise d'adolescence. Il y a aussi dans ce que j'ai entendu dans votre voix, Sarah, même si vous l'avez pas dit, mais peut-être que votre enfant, vous avez peur en fait que votre enfant aussi se sente abandonné par vous. C'est-à-dire que quand vous dites, est-ce qu'il va revenir vers moi, est-ce qu'il va revenir vers vous? On l'espère en tout cas, mais en tout cas de votre côté, ne lâchez pas. Alors, quand je dis ne lâchez pas, la première des choses, votre enfant est pris dans un conflit de loyauté. À qui je reste fidèle? À papa, à maman?
Et comment ils arbitrent, les enfants, dans ces cas-là?
Ah ben c'est difficile, ils sont pris entre deux feux, hein. Ils n'arrivent pas à arbitrer. Ou alors ça va être une espèce de colère, une espèce de quand ils vont être avec papa, et papa ben, va lui dire oui, maman elle a fait ci ou elle a fait ça, il va être à charge contre la maman, donc l'enfant ne fait qu'écouter, mais à l'intérieur de lui c'est le tsunami qui se passe. Quand il est avec maman, il va faire ressortir certaines choses que papa a dit, et en même temps sur lesquelles ben, peut-être que papa a raison ou peut-être pas, donc difficulté de se positionner, et on n'a pas à leur demander à se positionner. Vous pouvez pas choisir entre votre père et votre mère, c'est impossible. Même si, et on l'a vu quand on en a parlé aussi la dernière fois, même quand on est dans des situations de violence aussi. Mais là, Sarah, ne rentrez pas dans ce jeu. Ne rentrez pas dans ce jeu. Voyez votre enfant, il est en train de passer des difficultés, des perturbations. C'est pas facile à gérer. C'est compliqué. Faites confiance aussi, comme l'a dit Béatrice, au centre dans lequel il se trouve, aux adultes qui sont autour de lui. Et soyez comme un. Ça va être difficile, hein, mais soyez quand même. Accueillez sa parole. Quand je dis accueillir sa parole, ne justifiez pas. Ton père t'a dit ça, donc non, c'est pas vrai parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. C'est pas ce dont il a besoin. Il a pas besoin de ça. Soyez comme un refuge, c'est-à-dire d'accueillir en fait sa colère ou son mécontentement ou cette situation d'injustice pour lui. Je sais pas comment il va l'exprimer, mais ne rentrez pas dans le jeu surtout. Et vous allez voir, laissez le temps aussi faire. Le temps est votre allié.
D'ailleurs, en cas de séparation, Béatrice, les grands-parents sont des pôles de stabilité quand les parents se séparent. Hein, et ça arrive souvent aujourd'hui.
Absolument, oui. Sont des pôles sont des repères, c'est l'endroit où les enfants, justement, peuvent avoir la paix et ne pas entendre parler de ça toute la journée.
Absolument.
C'est pour ça que moi, je le dis vraiment aux grands-parents, ne prenez pas parti, restez en dehors, ne critiquez pas votre ex-belle-fille, votre ex-gendre.
C'est compliqué, ça.
Voilà, surtout, essayez de rester neutre pour que les enfants qui sont pris dans ces conflits qui leur polluent la vie, quand ils durent, que ces enfants-là aient au moins un endroit où ils se sentent à l'abri.
Ouais, même si on a tendance à soutenir son propre enfant.
Oui, mais de garder à l'esprit que c'est le bien-être de cet enfant, de cet enfant, c'est lui. Après, si on a envie de régler un enfant, il a pas les moyens de se défendre contre ça, et il est pas responsable lui de cette situation. Lui, c'est une victime. Hein.
Parents, hein. Sa mère, son père, son père.
Exactement.
Critiquer l'un ou l'autre, c'est de critiquer lui aussi.
Absolument.
Une part de ce qu'il est.
Absolument.
Donc les grands-parents doivent rester la Suisse.
Oui.
Vraiment, les grands-parents doivent vraiment avoir en tête qu'ils sont des recours formidables dans ces moments-là quand ils restent à distance.
Oui, rester à distance.
Les enfants le disent, les adolescents disaient, au moins quand je vais chez mamie, elle me fait un bon dîner ou elle me fait un bon goûter et on parle d'autre chose.
Oui, et beaucoup aussi me disent, j'oublie tout, j'ai tout oublié. Donc j'ai pu me... respirer un petit peu et me ressourcer pour aller, on repart sur le champ de bataille, surtout quand des situations comme celle-là. Oui, ouais. Absolument.
Ouais, ce sont vraiment des points d'appui pour, comme vous le dites, hein, Béatrice, pour surmonter les épreuves.
Oui, oui, parce que malheureusement, moi, je vois, rencontre aussi pas mal d'enfants endeuillés qui ont perdu un parent. Et dans ces cas-là, c'est vrai que le grand-parent, parent du parent qui est décédé, reste un appui important. J'ai vu, je pense, à une jeune adolescente qui a perdu sa mère comme ça et qui... Et au fond, la personne dont elle se sent le plus proche, c'est la mère de sa mère, qui manifestement est une femme vaillante et résiliente, qui lui permet de garder un repère et puis de parler de sa mère. Parce que parfois, c'est difficile pour les enfants de parler du parent disparu à l'autre parent.
Oui.
Ils ont peur de sa peine, ils ont peur de le rendre encore plus triste.
Oui, de raviver la plaie.
De raviver la plaie. Et donc, là encore, le grand-parent peut être un interlocuteur précieux.
On parle des grands-parents aujourd'hui. Vous écrivez Béatrice Copé-Royer, grands-parents, le maillon fort aux éditions Albin Michel. Si vous voulez réagir et intervenir, 01 53 48 3000. Racontez-nous un petit peu le lien qui vous unit à vos grands-parents, à votre grand-mère, à votre grand-père. C'est ça, partagez avec nous. 01 53 48 3000.
À votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et nous parlons des grands-parents ce matin, une émission pleine de tendresse avec Karima Chadibaou et Béatrice Copé-Royer qui a coécrit Les grands-parents, le maillon fort aux éditions Albin Michel, collection questions de parents. Quel est le lien? Est-ce qu'on peut décrire le lien singulier qui unit le petit enfant à un grand-parent? Quelle est la nature singulière de cette relation?
Vous battez pas. Alors, oui.
Gratuit, je dirais. C'est un lien qui est dénué de la part des grands-parents de soucis éducatifs, qui est extrêmement libre. En fait, il se construit comme ça dans une très grande liberté. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Beaucoup de grands-parents vous disent que c'est l'heureuse surprise du troisième âge, si je puis dire. C'est l'heureuse surprise de la dernière partie de la vie, les petits-enfants.
Oui, la cerise sur le gâteau, et c'est aussi la singularité de cette relation, c'est que c'est le mot en fait liberté, moi qui me vient à l'esprit. C'est on est libre, je suis libre d'être tel que je suis. Le petit enfant ne peut pas l'être tout le temps avec ses parents parce qu'il doit être comme ses parents veulent qu'il soit. Il va plutôt vouloir correspondre à l'image qu'ont de lui ses parents, mais tandis qu'avec grand-père ou avec mamie, avec papy, avec Déti, avec
c'est la fête.
C'est la fête. Je suis tel que je suis. Tout simplement. Et d'ailleurs, moi j'ai un petit garçon que j'accompagne en ce moment, qui est très très remuant, et quand il est avec son grand-père, et j'ai posé la question au papa, avec le papa c'est juste, il n'arrive pas à faire autorité avec lui, il n'arrive pas, le respect des règles, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Mais quand il est avec son grand-père, il est tout sucre, tout miel. Il me dit, Karima, vous ne le reconnaissez pas. Il me dit, je ne comprends pas. Je dis, alors que fait votre grand-père que vous ne faites pas? Tout simplement, ça par rapport à la relation, mais c'est aussi parce que le grand-père n'a pas d'exigence avec ce petit enfant. Il lui dit, bah vas-y. Ah bien sûr, quand il dit bonjour, il me dit, du coup, il se souvient de toutes les règles de politesse, les règles de bienséance, il les applique. Mais quand c'est avec moi, impossible. Il me dit, je comprends pas, j'en deviens presque un peu jaloux de mon père, de cette relation qu'il a avec mon fils.
Parce qu'il peut y avoir des conflits de génération quand même, et notamment sur les questions d'éducation.
Oui.
Oui, il peut y avoir évidemment, parce que les codes sont pas les mêmes. Je pense par exemple immédiatement au repas, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui prennent peu de repas avec leurs parents. Ils déjeunent à la cantine.
Oui.
Le soir, les parents rentrent à des heures diverses et variées. Et le repas est souvent dissocié. Hein, les parents, les enfants d'un côté, les parents sortirant. Les repas, il n'y a plus ces rites, enfin, ou c'est plus rare, ces rites de repas familiaux, et ils peuvent les retrouver chez les grands-parents qui, du coup, vont être, vont transmettre justement un certain nombre de codes. On tient comme ci, on tient comme ça, on ne tient pas toutes les 5 minutes pour voir ce qu'il y a dans le réfrigérateur, etc.
Et puis, il y a aussi, par exemple, dans la, je vous ai coupé Béatrice, mais dans la, par exemple, dans la culture, pour nos auditeurs, dans la culture maghrébine, le couscous chez la grand-mère, c'est sacré. C'est il y a un moment, c'est il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de qui va relier, qui va continuer à tisser les liens, à renforcer les liens à travers ce couscous, à travers cette, genre il y a quelque chose qui se fait qui est vraiment fondamental. Donc pour nos auditeurs, moi on le voit, parfois ça peut être la bagarre, la dispute, les conflits à tout va, mais quand c'est le vendredi ou le dimanche, il y a le couscous chez la grand-mère, là tout le monde se réconcilie. Et il y a quelque chose de très puissant là-dedans, de très très fort, et que seuls de grands-parents peuvent le faire.
Oui, parce que ce sont des rites. Oui. Les enfants adorent les rituels, ça les rassure beaucoup, sont des repères, et parfois, Dieu sait s'ils en manquent. Donc c'est quelque chose qui leur fait du bien.
Oui.
Une espèce de rituel qui revient avec une certaine solennité.
Oui.
Est-ce qu'on peut aimer ses grands-parents plus qu'on aime ses parents?
Oui.
Moi, je crois que c'est différent.
C'est pas pareil, c'est pas le même amour, c'est ça?
Moi, chaque histoire est singulière, évidemment. Il y a des parents qui peuvent être des parents maltraitants, même pas physiquement, mais psychologiquement, qu'on va, au bout du compte, ne pas pouvoir aimer, ou avoir, on peut avoir le sentiment qu'on a été très mal aimé, et trouver auprès d'un des grands-parents, c'est jamais les quatre à la fois, hein, mais souvent un des grands-parents qui va être un refuge affectif fort. Je pense que c'est quand même pas de la même nature, et que bien sûr que les grands-parents sont très aimés, adorés, et le rendent bien en retour à leurs petits-enfants, mais c'est compliqué de ne pas être aimé ses parents et de ne pas les aimer.
Oui, et puis comme on l'a dit au départ aussi, les grands-parents vont aussi éveiller quelque chose de particulier chez l'enfant, chez le petit enfant, que les parents peut-être n'éveillent pas. Il y a quelque chose. On peut pas répondre par oui ou par non. C'est pas possible. Mais il y a quelque chose, c'est vrai, de particulier. Il y a moins de contraintes, j'ai envie de dire. Il y a moins d'obstacles. Il y a moins de. Cette spontanéité naturelle en fait qui se fait. Moi, quand je regarde les récits, même les récits bibliques, les récits coraniques, on voit ce lien. De ces grands hommes, de ces grandes femmes qui ont eu leurs petits-enfants, et comment il y a ce lien d'attachement naturel et épanouissant qui ancre vraiment au niveau de tes racines, et qui en même temps te permet de pouvoir évoluer et de t'élever. Et souvent, pour les situations que j'ai rencontrées au cabinet, où tout à l'heure à la pause, je vous parlais d'une jeune fille anorexique que j'ai accompagnée, enfin j'aime pas poser cette étiquette comme ça parce que c'est un être humain avant tout, mais qui avait cette pathologie là, et avec la mère ça passait pas, on n'y arrivait pas. Et à un moment donné, moi, dans mes stratégies thérapeutiques, j'ai dit mais de quel côté je vais pouvoir aller? Et du coup, j'ai juste posé la question de la grand-mère, et c'est la grand-mère paternelle, et la grand-mère avec la grand-mère paternelle, donc la belle-mère, la mère ne s'entendait pas du tout. Et du coup, la grand-mère, elle était très reconnaissante donc à sa belle-fille, parce qu'elle lui laissait avoir une place. On est unis face à la pathologie et on va aider cette petite fille à s'en sortir. Et je vous assure, il n'y a pas eu besoin de faire de traitement de choc ou de choses, simplement le regard, de lui permettre de dire oui, tu as le mal de vivre, tu as envie de disparaître, ce monde ne te correspond pas, cette situation familiale ne te plaît pas. Oui, mais avec mamie, avec grand-mère, tu peux être telle que tu es. Et du coup, elle a peu de la jeune fille qui a repris goût à la vie, hein, et qui en est sortie. Moi, j'en suis vraiment, c'est une très belle fierté de dire, voilà comment on a intégré ce maillon, cette partie d'elle, de cette jeune fille, de cette famille, de cette histoire familiale, pour lui dire, mamie, vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe, on peut, c'est un soutien, c'est un pilier solide. Mamie, les grands-parents en général. Donc on peut et ne pas avoir peur, parce que le principal obstacle, c'est de demander de l'aide. Et on souvent, parce qu'il y a eu des histoires, il y a eu un contentieux ou je sais pas quoi entre nous. Donc non, on y va, on garde à l'esprit le bien-être de cet enfant et de comment les grands-parents vont venir et enrichir la vie de cet enfant.
Alors Béatrice Copé-Royer, ce que vous dites, c'est que les grands-parents ont autant à apprendre de leurs petits-enfants que les petits-enfants ont à apprendre de leurs grands-parents.
Mais oui, parce que le monde va tellement vite, il y a une telle accélération comme ça des connaissances et notamment de tout ce monde numérique qui va à 300 à l'heure, que il y a toute une culture, si vous voulez, qui évolue avec les générations. Et je trouve que c'est très intéressant que les grands-parents s'intéressent justement, je sais pas, à la musique que leurs petits-enfants écoutent, oui, aux films qu'ils aiment voir, aux séries qu'ils regardent, aux youtubeurs qui regardent sur leur écran. Ils peuvent leur apprendre aussi un petit peu, et ça leur fait très très plaisir aux petits-enfants à manier leurs applications avec un petit peu plus de dextérité et de rapidité. Il y a des grands-parents qui sont encore très démunis devant tout ça, même si ça a tendance un petit peu à se tasser, mais quand même. Je trouve que c'est un échange qui est très riche parce que ça va dans les deux sens.
Oui.
Les grands-parents, c'est pas le monde tel qu'il était avant.
Ben non, effectivement, les grands-parents qui sont nés, je sais pas, dans les années 50, sous le début des années 60, ils n'avaient pas Internet, hein, ils ont grandi sans, et pour les enfants, ça leur paraît totalement des dinosaures, quoi. Mais comment tu faisais pour pas avoir de portable?
Oui.
Et oui. Et puis dans cet échange de compétences aussi, les grands-parents apprennent aussi la patience. Hein. Quand je dis la patience, dans le sens maintenant, vous l'avez dit, hein, Béatrice, le monde va très vite. En un clic, on a ce qu'on veut. Voilà. Et les grands-parents, ils apprennent ce que n'arrivent pas à faire les parents aussi aujourd'hui. Bah, cette tâche en fait revient un petit peu aux grands-parents d'apprendre la patience, que les choses arrivent et elles se construisent dans le temps aussi. Et ça, c'est important. Les grands-parents le transmettent, ça. Oui.
Le monde change à la disparition des grands-parents. C'est la fin d'une histoire, en fait, finalement.
Oui, c'est la fin d'une histoire. Et ça bouge aussi un petit peu l'équilibre familial. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'à la mort des grands-parents, souvent, par exemple, les cousins se voient un peu moins. Parce qu'il n'y a plus ces réunions dans le foyer des grands-parents. Oui, et donc, il y a une distance. Chacun s'éparpille un petit peu. C'est un vrai moment extrêmement important qui peut être très douloureux. Moi, je vois des enfants et des adolescents qui passent par un moment de vrai grand chagrin à la mort d'un grand-parent. Et ils s'en remettent parce que ce sont des chagrins qu'on surmonte, bien sûr. Mais c'est important. Ça fait partie d'une étape importante de leur vie.
C'est la fin d'une époque, hein, comme on dit.
Oui, c'est la fin d'une époque. Ils s'en rappelleront.
Ils s'en rappelleront, ils gardent, moi c'est ce que je dis quand je travaille par rapport à ça, au deuil et au chagrin de la perte d'un grand-parent, de dire, ben voilà, il est plus là physiquement, c'est vrai, mais il sera toujours là dans ton cœur et de tout ce que tu as pu avoir et vivre avec, et de tout ce à quoi il t'a initié aussi, parce que les grands-parents initient aussi à énormément de choses. Donc du coup, c'est comment l'enfant, l'adolescent va s'inscrire en fait lui aussi à son tour dans cette histoire et dire, ben tiens, je vais perpétrer ça, j'ai un jeune garçon qui travaille avec lequel j'ai accompagné récemment et qui m'a dit je vais retourner au pays, donc originaire du Maroc, et il m'a dit je vais aller planter un arbre pour mon grand-père parce qu'il aimait ça, il aimait la nature, il m'a dit en son honneur je vais planter un arbre. Je lui dis c'est magnifique.
C'est une belle image. Hein.
C'est une très belle image, oui.
Super.
Oui, oui.
La transmission est-elle en crise, comme on le dit finalement, entre les générations, ou pas du tout, elle se porte bien?
Non, je pense que justement, les grands-parents sont d'autant plus importants aujourd'hui que via les réseaux sociaux, la communication entre gens de la même génération et entre adolescents notamment est absolument à son maximum. Et je trouve que c'est une communication qui est parfois très normative, assez violente, assez réductrice et très dans l'instantané, dans l'émotion tout le temps. Et je pense que c'est très, très, très important que les grands-parents, et d'ailleurs les parents aussi, se disent qu'ils ont justement encore des choses à transmettre à ces jeunes générations, qui ne savent pas tout, et que prendre du temps, mettre de la réflexion là où il en manque cruellement, c'est absolument essentiel, et peut-être encore plus aujourd'hui qu'autrefois.
Oui, Absolument. Et vraiment de pouvoir perpétuer tout ça et qu'on en a besoin, on a encore besoin de nos grands-parents et qu'ils puissent nous accompagner et nous guider dans ce monde qui change aussi, parce qu'ils ont énormément de sagesse et énormément de choses à transmettre. Hein. Donc on ne va pas les...
À 200 à l'heure, les adolescents sont beaucoup dans l'instantané, oui. dans l'émotion immédiate, dans la réaction sans réflexion. Et je trouve que c'est bien que des gens d'une autre génération leur montrent qu'on peut aussi penser et réfléchir autrement.
Oui. Absolument.
Béatrice Copé-Royer, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez coécrit Grands-parents, le maillon fort. Béatrice, vous aimez bien Karima, cette expression maillon
oui,
fort.
Oui, j'aime beaucoup.
Albin Michel dans la collection Questions de parents. Merci d'avoir été
c'est
avec
très
nous.
Très puissant. Merci beaucoup, Béatrice.
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Merci
au revoir.
D'avoir été avec nous. Et demain, nous avons rendez-vous avec le docteur Delabo qui nous expliquera comment les maigris, les produits soi-disant allégés nous font grossir.
Oh là là, c'est tout un programme,
c'est
ça aussi.
C'est incroyable, ça. Karima,
ouais.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.